Alors pour ce message de la rentrée, pardon, j'ai l'impression que le son est parti maintenant, avant il était trop fort. Est-ce qu'on peut équilibrer pour avoir pas trop doux, pas trop fort? Là, est-ce que vous m'entendez bien même au fond? Annick, là tu m'entends bien ou pas? Très bien. Tout le monde m'entend, voilà. Non, c'est mieux parce que de le faire avant, je suis désolé, parce que si c'est pendant, c'est dommage. Ce matin, donc, le thème, c'est être un chandelier qui est à sa place, être une lumière qui brille correctement. Et je voudrais prendre un passage dans l'Apocalypse. Dans les deux premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, il est question de chandelier. Et on va regarder d'abord chapitre 1. Verset 10, c'est l'apôtre Jean qui raconte: Je fus saisi par l'esprit au jour du Seigneur, donc le dimanche, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi en disant: Ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà donc une vision, la première vision de Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et qui voit-il là? Jésus-Christ en particulier. Christ glorifié. Il ne voit pas le petit Jésus, comme on entend souvent parler du petit Jésus, le bébé dans les bras de sa mère. Il voit le Seigneur Jésus-Christ glorieux dans le ciel. Voilà comment le Seigneur se trouve maintenant. Quand il est venu sur la terre, il était un bébé, et puis il a grandi, il est devenu un homme, et un homme qui s'est humilié et qui a servi les autres hommes et qui a même été crucifié, un homme qui était défiguré par la souffrance et par la compassion qu'il a eue, et par les meurtrissures que les hommes lui ont données, mais aussi par la colère de Dieu qu'il a acceptée à notre place. Mais quand il est ressuscité, il est resté un certain nombre de jours pour montrer à tout le monde qu'il était bien vivant et vraiment ressuscité, et puis il est monté au ciel, hein, 50 jours après, et là, il est au ciel dans... Ici, hein, ce qu'on voit dans cette gloire. Jean essaye de décrire, mais il a beaucoup de mal. Et tout ce qu'il voit, c'est que c'est des choses brûlantes, brillantes. Mais ce qu'il voit, c'est le Seigneur assis au milieu des chandeliers d'or. Et on se demande, mais qu'est-ce que c'est ces chandeliers? Et on découvre que ces chandeliers, ce sont sept églises dont il va parler dans la suite. Et ces sept églises, eh bien, on peut dire, elles représentent toutes les églises de tous les temps, de tout le monde. Et on peut y trouver des choses pour nous. Le Seigneur veut que nos églises, que les églises soient des chandeliers à leur place. Malheureusement, il y a depuis le début de l'Église des séductions, des tentations, des persécutions qui font que les églises n'ont pas toujours tenu leur place. Et il est arrivé que le Seigneur ait retiré le chandelier. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est dans les sept églises qui sont mentionnées, Éphèse, Smyrne, Pergame, etc., aucune n'existe en tant que telle aujourd'hui. Il n'y a pas d'église connue à Smyrne, hein, ou à, enfin, en tout cas, pas celle-là. Ces églises ont disparu parce qu'elles ont été emportées par diverses vagues. Mais nous, on va voir ce matin trois églises en particulier. Et on va commencer avec Éphèse au chapitre 2. Et on va voir ce que le Seigneur veut nous dire. Le Seigneur marche au milieu des églises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les églises ne sont pas autonomes par rapport à Jésus-Christ. Ça veut dire que le pasteur n'est pas le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ ressuscité, glorifié. Ça veut dire que le Seigneur aussi regarde ce qu'on fait dans l'église. Comment on se comporte? Comment notre sincérité, notre travail, notre amour, notre zèle? Et que le Seigneur veut corriger ce qui ne va pas. Regardez avec Éphèse, Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ce qui est touchant, c'est que le Seigneur commence avec les bonnes choses. C'est vrai que quand on est perfectionniste, par exemple, on ne voit jamais, jamais les bonnes choses. Pourquoi? Parce que quand on est perfectionniste, on attend la perfection. Comme elle n'est pas de ce monde, on est toujours déçu, frustré. Le Seigneur est parfait, et pourtant, il est très patient et miséricordieux avec nous, et il veut qu'on atteigne la perfection, mais il nous connaît, il sait ce que c'est d'être un homme avec ses faiblesses et ses combats. Et donc, il voit d'abord le bien qui se passe. C'est encourageant parce que des fois, on se dit, voilà, moi je fais des choses pour le Seigneur, mais personne ne me remercie. Personne ne semble reconnaître mon travail qui est caché, etc. S'il y a quelqu'un qui le reconnaît, c'est le Seigneur. Vous savez, parfois, il y a des mamans, elles en ont un peu assez parce que leur vie tourne autour de la vaisselle, le linge, la cuisine, le ménage, changer les petits quand il y a des petits. Et puis au bout d'un moment, vous dites, mais ma vie est quand même pas très glorieuse, pas très passionnante, je n'ai pas une vie d'aventurière, je ne parcours pas le monde, je suis là dans ma maison du matin au soir. Mais sachez que ça fait partie de l'œuvre de Dieu d'élever ses enfants, de s'occuper de sa maison. Et il faut aussi que les maris donnent de l'aide, n'est-ce pas ? Pour qu'elle ne soit pas justement tout le temps empêtrée dans des choses comme ça, qu'elle puisse faire autre chose. Mais c'est une œuvre de Dieu de s'occuper de ses enfants. Lorsqu'un enfant est négligé, il en souffre et plus tard, il va mal tourner, hein, ou il risque de mal tourner. Parce qu'il va manquer d'amour, il va manquer d'attention, manquer d'affection. Et c'est une œuvre de Dieu. Être une maman, c'est un ministère. Mais il y a plein de choses aussi qu'on peut faire dans une église, quand on prie, on peut prier chez soi, intercéder avec ferveur, et personne ne le sait. Et heureusement, parce que sinon, on s'en orgueillerait. On dirait, oh oui, hier, j'ai prié 3 heures d'affilée. Et puis, alors, c'était fort. Hein. J'y suis allé. Hein. Ça, c'est de l'orgueil. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Non, j'ai prié, et c'est dans le lieu secret, et c'est entre moi et Dieu. Par contre, les fruits, un jour, le Seigneur me les montrera. Tu sais, tu as prié pour cette personne. Tu as demandé cela. Et même des fois, on les voit sur terre, les réponses aux prières. Donc le Seigneur, il voit les œuvres de cette église. Donc elle travaille. Hein. C'est une église à l'œuvre. Je vois ta persévérance. C'est une église à l'œuvre avec persévérance. Et ça, c'est quelque chose d'important. Des fois, on fait quelque chose pour le Seigneur. Par exemple, on revient d'un camp biblique, n'est-ce pas ? Gonflé à bloc, et on a 27 résolutions là sur la feuille, on dit, c'est 20, là je vais commencer le mois de septembre à fond. Et puis au bout de 2 semaines, on a déjà éliminé la moitié des 27, et puis au bout d'un mois, on a déjà oublié ce qui s'est passé dans le camp. notre mémoire hein, est si fragile. La persévérance de dire « Seigneur, par ta grâce, tu m'as montré quelque chose, je vais vivre ce que tu m'as montré. Tu m'as montré une idole que je dois déboulonner et enlever. Seigneur, je la déboulonne maintenant, je l'enlève et je ne vais plus la réinstaller dans mon cœur. Elle est dehors pour toujours, par ta grâce. » La persévérance. Et cette église avait de la persévérance. Elle persévérait aussi face aux oppositions, puisque visiblement, elle a souffert, verset 3, à cause du nom de Christ. C'était une église qui a connu des persécutions, parce que c'était des chrétiens, et ils ont persévéré, ils ne se sont pas laissés arrêter. Là aussi, c'est une leçon pour nous. Même si nous ne sommes pas persécutés physiquement pour notre foi, même si le christianisme n'est pas interdit du tout en France, il y a une forme de persécution intellectuelle, morale, envers les chrétiens, dans les universités, dans les lycées, dans certaines entreprises, où le fait d'être chrétien est un moins. Et il faut continuer à proclamer le Seigneur sans honte. Lorsque la théorie de l'évolution est arrivée dans le monde, si on peut dire, au 19e siècle, avec Charles Darwin et puis surtout ses successeurs, en fait, qui l'ont beaucoup répandu, les chrétiens se sont retrouvés face à un dilemme. La Bible leur disait que la terre, les hommes, tout a été créé, ex nihilo, de rien, par un créateur tout-puissant. Et puis, il y avait de plus en plus de savants, de scientifiques qui disaient « Non, 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 tout a évolué à partir de choses et par hasard et par l'évolution des espèces, on est arrivé à aujourd'hui. » Donc, contradiction complète. La question, c'est comment continuer à être chrétien si, lorsque vous dites « je crois en la création », on vous dit « c'est fini ça, on a découvert, maintenant on sait bien que c'est l'évolution, tout a évolué, n'est-ce pas ?» Comment continuer ? Il y a malheureusement des églises et des chrétiens qui ont essayé de faire un compromis. Et ils ont essayé de mettre l'évolution dans la Bible. Et je peux vous dire, pour mettre l'évolution dans la Bible, il faut vraiment étirer les versets dans tous les sens parce que la Bible est très stricte. Tout a été créé. Le mot revient plusieurs fois. Et en plus, il dit « Dieu a créé chaque chose selon son espèce ». Ça veut dire qu'il a créé les hommes selon leur espèce, il a créé les animaux selon leur espèce, les poissons, les mammifères. Il n'a pas mélangé les espèces, il n'a pas fait une espèce qui donne toutes les espèces. Non, chaque espèce a été créée à part et ne se mélange pas aux autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec l'ADN. Hein. L'ADN prouve que tout ça est exact. Mais des chrétiens ont essayé de trouver l'évolution dans la Bible et ils n'ont pas persévéré, je dirais, dans leur foi dans la parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur a envoyé plusieurs encouragements, on peut dire, avec l'archéologie qui a progressé, qui a montré que la Bible était exacte sur bien des points, avec même des scientifiques chrétiens qui apportent des éléments d'information. Mais il suffit d'avoir un peu de bon sens et de regarder la nature pour dire qu'il y a une main intelligente et aimante qui a fait tout cela. Persévérer. Et puis, cette église avait du discernement. Tu ne peux pas supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Visiblement, il y avait des personnes qui se disaient apôtres de Jésus-Christ et qui arrivaient dans les églises en disant « Moi, je suis un des apôtres, il faut écouter mon enseignement. » Alors, à cette époque-là, dans les églises, c'était un peu le modèle des synagogues, lorsque quelqu'un d'important arrivait, on lui cédait tout de suite la parole. Et cette église d'Éphèse, avant de céder la parole à quelqu'un, elle dit « Dis-moi, en quoi es-tu un apôtre ? Pourquoi tu serais un apôtre ? Prouve-nous. » Et ils ont éprouvé l'esprit de cette personne et ils ont compris que c'était un faux apôtre. C'était quelqu'un qui se faisait passer. Et donc, ils l'ont empêché de semer un faux enseignement. Une église qui fait attention à ce qu'elle croit, à ce qu'elle enseigne. Aujourd'hui, on est dans le supermarché religieux, hein. C'est-à-dire le monde de la consommation est entré dans les églises. Et dans les églises, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Vous avez du New Age, vous avez de l'écologie, vous avez du rock, du rap, toutes les sortes de musique. Vous avez de la psychologie, vous avez de la méditation transcendantale, du zen, du yoga. Vraiment, et c'est à la carte. Vous arrivez au restaurant religieux et vous dites « Moi, je voudrais un peu de Bible et un peu de yoga. Ben, pas de problème, on va arriver à vous mettre tout ça. Et après, les chrétiens ou les gens qui assistent dans ces églises sont dans une confusion totale. Avec Dieu, on n'est pas au supermarché et ce n'est pas à la carte. C'est le Seigneur qui nous révèle sa parole. Et la révélation, elle est dans la Bible. La Bible n'a pas changé depuis des millénaires, c'est toujours la même. Et les vérités qui sont dedans sont toujours vraies et on n'a pas à les mélanger avec autre chose. Avoir du discernement. C'est très important aujourd'hui. J'avais dit qu'il y avait même une église où vous pouviez faire la vidange de votre voiture pendant la réunion. Vous avez une crèche, un bar, vous entrez, vous pouvez vous servir, il n'y a pas d'alcool évidemment, mais vous prenez un cappuccino dans le hall, et puis ensuite vous entrez à l'heure que vous voulez, parce qu'il y a 3 ou 4 cultes un peu à toutes les heures, et vous rentrez là, et il y a un concert de musique rock en général qui a lieu à la place du culte, et puis vous dites, ça c'est les nouvelles églises. Et il y a du monde, il y a du monde. L'église d'Éphèse faisait attention à ce qui était enseigné, ce qui était fait. Elle avait ce discernement. Mais, et au verset 4, on arrive au mais. Vous savez, quand le Seigneur commence à regarder notre vie ou notre église, il arrive un moment où il est obligé de dire mais. Et ça fait du bien, ce mais, parce que sinon, encore une fois, ça veut dire qu'on est dans l'orgueil. Si on pense qu'on a tout bon, que ça y est, je pense que tout ce que je fais est bien, tout ce que je dis est bien, tout ce que notre Église fait est bien, ça veut dire qu'on est un peu aveuglé. Parce que quand le Seigneur Tout-Puissant nous regarde, il voit le bien et il voit aussi les choses à améliorer. Verset 4, « Ce que j'ai contre toi, » et là c'est violent, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Le mot « abandonné », là c'est le mot qu'on utilisait pour répudier sa femme. C'est le mot « répudier ». Tu as répudié ton premier amour. Alors là, on est choqué. D'abord parce que le Seigneur dit « ce que j'ai contre toi ». Le Seigneur a quelque chose contre cette Église. Il ne dit pas « ce que tu pourrais améliorer » ou « ce qui manque un petit peu ». Non, il dit « j'ai ça contre toi ». Et nous devons réaliser que tout péché, tout manquement à l'amour de Dieu, va à l'encontre de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Quand il dit dans l'épître de Jean, l'amour du monde est ennemi de Dieu. Ça veut dire que quand un chrétien aime les choses, les idoles de ce monde, il se met en ennemi de Dieu. Rappelez-vous lorsque Pierre a parlé à Jésus, lorsque Jésus était sur la terre. Le Seigneur Jésus annonçait qu'il allait être arrêté, crucifié par les chefs et ressuscité. Et Pierre l'a repris, il a dit, « Seigneur, je t'interromps, ça ne va pas t'arriver, tu ne vas pas être arrêté et crucifié. À Dieu ne plaise, dit-il. » Et le Seigneur Jésus a repris son cher disciple. Pierre, c'était le cher disciple du Seigneur. Il a dit, « Arrière de moi, Satan, tu n'as que des pensées humaines. » Ne faisons pas ça nous-mêmes. N'allons pas voir les frères en disant, « Arrière de moi, Satan. » Le Seigneur Jésus est parfait, lui peut se permettre de le dire. Mais il le dit parce qu'il est absolument saint. Et toute chose qui va contre sa sainteté est contre lui, en fait. On ne réalise pas que chaque fois qu'un chrétien désobéit à la parole de Dieu, il offense son Seigneur. Nous, on essaye de justifier le péché, on dit « bon, bah oui, je suis tombé, oh, j'ai un petit égarement ». Non, ce n'est pas un égarement, un péché, c'est une offense contre Dieu. Une offense contre Dieu. Ici, le Seigneur dit « ce que j'ai contre toi, c'est que tu as répudié ton premier amour ». Cette église qui avait l'air tellement active, tellement travailleuse, persévérante, elle avait laissé de côté l'essentiel. Son premier amour. C'est quoi son premier amour? C'est l'amour que les chrétiens avaient pour leur sauveur. Ce premier amour, c'est ce qu'on a quand on se convertit à Jésus-Christ. Si vous ne vous êtes jamais converti, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est ce premier amour. Mais si vous êtes vraiment converti en âge de conscience, vous savez très bien de quoi je parle. C'est que quand on découvre l'évangile, la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est venu nous sauver, qu'il est mort pour nous et ressuscité, qu'il peut pardonner tous nos péchés et qu'on l'accepte dans sa vie, en disant « Seigneur, j'en ai assez du mal, de l'impureté, je veux que tu me transformes, je veux que tu me pardonnes, me purifies. » Là, on est rempli de ce premier amour. On est presque amoureux des fois. C'est-à-dire, c'est les symptômes hein, de quelqu'un d'amoureux. Je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais au tout début de ma conversion, je ne pouvais pas faire une phrase sans parler de la Bible, de Dieu, de Jésus-Christ. Je pense que mes amis et ma famille en avaient un peu assez. Et c'est vrai qu'on est un peu critiqué pour ça, parce que oui, mais alors t'as que ça à la bouche, la Bible, Dieu, Jésus, le pardon, et tu nous parles du jugement, de l'enfer, du paradis. Écoute, stop, arrête un peu. Oui, mais pourquoi on est comme ça? Parce que ça déborde. C'est pas parce qu'on est endoctriné comme une machine hein, à débiter des versets bibliques. C'est parce qu'on est débordant d'amour pour le Seigneur. Et on ne comprend pas que tout le monde ne l'accepte pas. Moi, c'est la chose que je trouvais incroyable. Je dis, mais pourquoi vous ne croyez pas en Jésus-Christ? Mais je ne vois pas, il n'y a rien de mal. Et tout ce qu'il donne, c'est ce qu'on cherche, justement. Vous cherchez le bonheur, c'est en lui. Vous cherchez le pardon, c'est lui qui l'a. Vous cherchez la vérité, il est la vérité. La pureté, c'est lui qui l'a. Vous cherchez l'amour, c'est lui qui le donne. Moi, il m'a rempli d'amour que je n'avais pas. Pourquoi vous allez chercher ailleurs? Et nous, on ne comprend pas pourquoi tout le monde ne devient pas chrétien et les non-chrétiens, ils ne comprennent pas pourquoi on les bassine tout le temps avec ça. Tu as perdu ton premier amour. Ça, c'est quand on a perdu cette flamme. Et c'est vrai que l'amour évolue hein, avec les années. C'est comme dans un couple. Ça devient plus profond, on pourrait dire. Mais il doit augmenter l'amour, même dans un couple, avec les années. C'est ça le vrai amour. Ça augmente, ça se fortifie, c'est plus solide. Et là, l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. C'est-à-dire, ils faisaient toutes les œuvres par légalisme. Ils étaient devenus légalistes. Ils ne faisaient plus les choses par amour pour le Seigneur, ils le faisaient parce qu'il faut le faire. Et quand une église tourne comme ça, elle devient de plus en plus orgueilleuse, dure, les uns envers les autres, les uns avec les autres et avec tout le monde. Et cette église perd son témoignage, perd son chandelier. Parce qu'au lieu de témoigner de l'amour de Dieu, elle témoigne du légalisme humain. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, et comme ci, comme ça, et on se juge les uns les autres. Le légalisme est quelque chose d'horrible parce qu'il est constamment en train de juger les autres. De regarder les défauts des autres, et dire « toi, t'as ça qui va pas, toi, t'as ça, et ça, il y a ça qui va pas. » Et finalement, c'est très déprimant, pour commencer, et surtout, ce n'est pas à la gloire de Dieu, parce que le Seigneur nous a sauvés, pas pour qu'on se juge les uns les autres, mais pour qu'on s'édifie, qu'on s'encourage. J'aimerais parler maintenant quelques instants d'une autre église, là. L'église de Thyatire, chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà une église qui est presque pareille qu'Éphèse. Vous avez remarqué en quoi elle est pareille? C'est une question que je vous pose. Voilà. Constance des œuvres, elle travaille pour le Seigneur. Il y a de l'action là. Mais elle, ce n'est pas qu'elle a perdu son premier amour, c'est qu'elle a laissé une séductrice hein, entrée dans l'église, une Jézabel, parce que Jézabel, c'est une allusion à la Jézabel de l'Ancien Testament, la femme du roi Akab qui entraînait Israël dans l'idolâtrie et qui forçait les Israélites à adorer Baal. Et c'est elle que le prophète Élie a confrontée. Et donc là, il y avait une forme de Jézabel, une femme qui poussait les chrétiens par son enseignement à laisser tomber l'enseignement du Seigneur pour aller vers des idoles ou des pratiques débauché, on peut dire. On dit quand même, dans une église, c'est pas possible. Tout est possible. Tout est possible. Si on ne garde pas la parole de Dieu Tout est possible. Je vous avais déjà parlé des matchs de catch dans les églises, où le dimanche après-midi, pour attirer du monde, les diacres organisaient un match de catch. Et à la fin du match, ils essayaient d'annoncer l'évangile. Dans le journal, hein, c'était écrit. C'est une honte. Voilà, c'est mélanger les choses. Hein. Et donc cette église, elle travaillait, mais elle s'était laissée prendre par une séduction. Et en fait, on est dans les deux, toujours dans les deux. Soit on fait attention aux faux enseignements et on a une tendance à devenir rude, qui juge les autres, légaliste. Soit on dit, oh là là, il faut être cool, il ne faut pas juger les autres. Et du coup, on perd son discernement et on tombe dans des pièges comme ça, des séductrices ou des séducteurs. Et ce que le Seigneur attend, et là je parle à notre église, puisque nous sommes dans notre église ici ce matin, c'est de garder cet équilibre, de garder son premier amour, tout en gardant le discernement et tout en étant une église à l'œuvre. Et je crois qu'on peut progresser dans tous ces domaines. On peut avoir plus d'amour pour le Seigneur. Nous sommes parfois un peu timorés, que ce soit dans le culte ou dans toutes sortes d'activités. On fait les choses sans que ce soit motivé par l'amour du Seigneur. On n'est pas là en disant « Ouais, chouette, on va aller à l'église. Ouais, on va aller évangéliser. Ouais, on va aller chanter. Ouais, on va prier. » Non, c'est un peu lourd, un peu... Mais quand on est porté par le premier amour, on fait des bons, hein. Et on veut faire les choses pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. On ne pense pas à sa gloire ou à son ego. On pourrait progresser aussi dans le discernement. Il est temps que les chrétiens plus anciens dans la foi soient vraiment au fait des dangers qui menacent les églises aujourd'hui. Il y a des dangers, comme dans tous les temps, hein. Il y a des faux enseignements et il faut qu'eux-mêmes puissent répondre, que ce ne soit pas seulement le pasteur, hein, ou les pasteurs. Et il faut que vous puissiez étudier la parole de Dieu aussi et pouvoir répondre et protéger l'Église. Et puis, il y a également le travail, hein, la constance, les œuvres, ton fidèle service, là aussi, d'avoir des chrétiens qui servent les autres, qui servent le Seigneur et les autres. Et le chandelier qui brillera, c'est lorsque l'Église, justement, sera au service des chrétiens et de l'Évangile, lorsque nous serons une Église dans l'amour et dans la vérité. Et à ce propos, j'aimerais donc vous citer Éphésiens 4, verset 15, qui résume cela. Éphésiens 4, verset 15, « En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le pape, Christ. » Je voulais vérifier. Remarquez la première phrase, « professez la vérité dans l'amour ». Il ne dit pas « aimez dans la vérité ». C'est la vérité dans l'amour. Une église, pour aimer correctement, doit être dans la vérité. On n'aime que si on est dans la vérité. Si on n'est pas dans la vérité, on va aimer de travers. Il faut professer aussi la vérité, c'est-à-dire la communiquer, la répandre, la vivre, mais dans l'amour. Si on professe la vérité sans amour, on est cassant, on est orgueilleux, on est arrogant. On dit, voilà, nous avons la vérité ici et vous n'avez pas la vérité. Ce n'est pas un chandelier à sa place qui dit ça. Un chandelier à sa place, il attire les gens en disant « Venez à Christ !» Ici, il y a l'amour de Christ dans la vérité et il y a la vérité dans l'amour. Comment dire la vérité dans l'amour? Quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, plutôt que de lui asséner l'évangile, hein, ou de dire « nous on est sauvés, et toi, ben voilà, regarde !» Non, de pouvoir amener la personne par amour, dire « Oh, si tu connaissais le Sauveur, si tu connaissais mon ami fidèle qu'est Jésus-Christ, si tu savais combien c'est merveilleux d'être pardonné une fois pour toutes de ses péchés, si tu savais tout ce que je découvre dans la parole de Dieu. » Ça, c'est professer la vérité dans l'amour. Même avec les ennemis intellectuels ou spirituels que nous avons. Remarquez comme le Seigneur Jésus répondait toujours avec sagesse mais douceur. Il ne se querellait pas, il ne rentrait pas dans des conflits à n'en plus finir. Et il invitait même les ennemis à se repentir avec douceur. Notre Église a des progrès à faire, nous avons des progrès à faire. Le but, c'est d'être un chandelier à sa place, qui brille le plus possible. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Mais aux églises, il dit, vous êtes les chandeliers, on peut dire, du monde. Les lustres. Nous avons vu des beaux lustres là-bas, à Ivoire, ce petit village. Un lustre, il éclaire toute la pièce, hein, il est magnifique, il est taillé pour éclairer, pour être admiré. Et Dieu veut que notre Église fasse admirer Jésus-Christ, que les gens sachent qu'ici il y a l'amour de Dieu, la vérité de Dieu, qu'il n'y a pas trop de légalisme et pas trop de laisser-aller, mais qu'il y a l'équilibre, la sagesse. Le Seigneur dit aux églises à chaque fois que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est dans l'Apocalypse, plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende? Ben oui, j'ai des oreilles. Oui, mais est-ce que tu les utilises pour entendre? C'est ça la question. Est-ce que tu écoutes ce que le Seigneur veut te dire? Ou est-ce que tu utilises tes oreilles juste pour que ça passe à travers et que ça ressorte de l'autre côté? Si le Seigneur nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, c'est qu'il veut qu'on retienne ses exhortations, ses encouragements et ses reproches. Qu'on soit sérieux avec le Seigneur. Seigneur, tu as quelque chose contre moi. Je ne peux pas continuer à vivre ma vie chrétienne sachant que tu as quelque chose contre moi. Seigneur, tu m'encourages dans ce domaine. Je veux continuer dans ce domaine, persévérer et combler les manques. Peut-être qu'il y a ici quelqu'un aussi qui ne s'est jamais repenti de ses péchés. Justement, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne connaissez pas le premier amour. Je ne vais pas vous en dire plus, j'en ai déjà dit pas mal dans le message. Ne manquez pas cet amour extraordinaire qui vous comble. On cherche à droite, à gauche, à être comblé et on n'est jamais satisfait. Et quand vous venez à Christ, c'est tout simple et vous êtes satisfait dans votre âme profondément. Plusieurs peuvent en témoigner ici. Alors on dit, oui, mais Jésus-Christ, quoi, c'est trop simple, c'est trop facile, et puis il a existé il y a 2000 ans, mais il n'est plus là. Si, il est toujours là, il est ressuscité, il est dans la gloire. Ce n'est pas trop simple, ça ne veut rien dire, c'est trop simple. Si Dieu veut que ce soit simple, ce sera simple. Et s'il dit, je te donne la vie éternelle si tu crois en mon Fils, c'est simple, mais c'est la vérité. S'il dit, tu cherches l'amour, je te donnerai tout mon amour si tu crois en mon Fils. Tu cherches le pardon, je te donnerai tout mon pardon si tu crois en mon Fils. À nous de croire et de saisir. On va terminer par la prière et puis par un cantique.